RCF.
RCF, Fabrice Gironnet.
18h10, vous êtes sur RCF, l'heure du 18-19 en région avec Alexis Claudretz.
Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau 18-19 en Champagne, 18h10, 19h, multicolore aux couleurs de l'arc-en-ciel qui se forme lorsque pluie et soleil se mélangent, un petit peu à l'instar de cette journée. Il y a des invités en studio, on va vous les présenter dans quelques secondes, il y a des intervenants qui sont également avec nous par téléphone, c'est le cas de Jean-François Boulanger qui évoquera la mémoire de Saint-Charbel dans quelques instants. Un maire qui nous parle, Francis Blin et l'édile de Trigny dans la Marne. En deuxième partie d'émission, on fera quelques rencontres, notamment un zoom sur l'association du sud-ouest marnais des parents et amis d'enfants inadaptés avec son président Gérard Goris. On rencontrera également Charles de Lestapie, qui est intendant de la paroisse Sainte-Léonie à Via dans le diocèse de Chalon et qui présentera un projet d'une équipe scout sur l'espace missionnaire de l'Abri. On parlera des questions économiques d'Ardennes Métropole avec le vice-président en charge de ces questions. Il s'agit bien évidemment de Patrick Faustier. Je vous ai dit qu'il y avait du monde en studio. Jean-Pierre Benoît va nous rejoindre dans quelques instants, comme tous les jours. Mais il est là à nos côtés. Il fait son retour en direct pendant le 18-19. Kylian Jeannot, un ancien stagiaire à la rédaction. Kylian, bonsoir.
Bonsoir Alexis.
Comment ça va ?
Ça va très bien et toi ?
Ça va bien, merci. On te retrouvera à l'intérieur du journal régional pour évoquer les journées agences ouvertes auxquelles tu as participé avec certains de tes camarades de promotion du BTS communication du groupe Saint-Michel à Reims. Vous nous raconterez un petit peu, voilà, qu'est-ce que c'est que ces journées agences ouvertes et puis également la participation sur un plateau d'une émission, laquelle ?
Le Quotidien.
Quotidien avec Yann Barthès, c'est tous les jours du lundi au vendredi sur TMC, mais surtout soyez fidèles au programme de RCF, c'est bien là l'essentiel. Avant de commencer ce magazine ce soir, si vous n'étiez pas avec nous ces derniers jours, on a une pensée pour la famille, les amis, les proches de Jackie Husson qui nous a quittés il y a quelques jours. Il avait joué un rôle important dans la vie de la radio à travers des reportages sur le terrain, l'animation des réseaux bénévoles, notamment auprès des jeunes, de l'émission Sportiplex. Il était également très impliqué dans la paroisse de Saint-Brice-Courcelles. Son dynamisme, sa générosité, son souci de rendre compte de la vie diocésaine sont des souvenirs qui reviennent en mémoire de l'équipe de RCF qui est donc en union de prière avec la famille, les amis et les proches de Jackie Husson. Ses obsèques seront célébrées demain, mercredi 17 avril à 14h30 en l'église de Saint-Brice-Courcelles. Nous, tout de suite, on commence cette émission avec Mémoire chrétienne avec Jean-François Boulanger avec nous par téléphone. Jean-François, bonjour.
Bonjour.
Et aujourd'hui, on change de sujet, on change de mémoire, si j'ose dire.
Absolument.
On va parler de Saint-Charbel. Aujourd'hui, Mémoire chrétienne nous fait accomplir un trajet qui va du Liban à la cathédrale de Laon. C'est celui donc de la mémoire de Saint-Charbel. Qui est-il ?
Alors, Saint-Charbel est un ermite maronite qui est né dans le nord du Liban sous le nom de Youssef Antoun Maklouf, le 8 mai 1828. Il a vécu son enfance dans un village qui se trouve être le plus haut du Liban, à 1600 mètres d'altitude, dans ce qu'on appelle au Liban la Vallée Sainte. Pourquoi la Vallée Sainte ? Parce que c'est une vallée qui a été occupée par des communautés religieuses depuis les toutes premières années du christianisme, qui y trouvaient refuge. C'est notamment le cas des Maronites, donc à partir du 7e siècle. Et ce mouvement s'est intensifié au 10e siècle, après la destruction du monastère de Saint-Maron. Les moines maronites établissent alors leur nouveau centre dans la vallée, à Notre-Dame de Canoubine. Et les monastères, donc, combinaient la vie d'ermite et la vie communautaire. Ils se sont multipliés rapidement sur les collines environnantes, colonisant de nombreuses grottes qui étaient souvent difficiles d'accès. Et à la fin des croisades, les maronites des villages environnants et ceux habitant les grottes de la Kadisha ont été victimes de campagnes violentes, notamment de la part des sultans mamelouks. Et en dépit de ces attaques, donc, le monastère de Deir Kanoubind est devenu le siège du patriarcat maronique au XVe siècle et le demeure donc pendant 5 siècles.
Par rapport aux éléments que vous venez de nous présenter, Jean-François, on peut donc considérer que Saint-Cherbel a vécu dans un lieu qui symbolise la résistance des chrétiens maronites aux différentes persécutions qu'ils ont connues à travers les siècles.
Exactement cela, et c'est dans ce contexte très particulier que celui qui va devenir Saint-Cherbel vit dans sa jeunesse. Il a d'ailleurs deux oncles qui sont ermites, et lui-même, à l'âge de 23 ans, part pour un monastère et prononce ses vœux religieux au sein de l'ordre libanais maronite sous le nom de Charbel. Charbel ayant été justement l'un des premiers martyrs de l'église d'Antioche du IIe siècle. Devenu à son tour ermite, il va vivre saintement et mourir donc au moment de la Noël 1898.
Il vit saintement, mais comment accède-t-il à la canonisation, Jean-François Boulanger ?
Alors effectivement, vivre en ermite saintement, c'est assez courant, si je puis dire, dans la région. Mais dans les heures qui suivent sa mort, les moines remarquent aussi qu'un liquide sanguin suinte à la surface de son corps. Et après les obsèques qui ont donc lieu le jour de Noël même, il est enterré sans cercueil, à même la terre, selon la tradition de l'ordre monastique auquel il appartient. Et la nuit suivante, quelques heures après sa mise en terre, des clartés inexplicables s'élèvent de sa tombe dans le cimetière des moines. Et la rumeur de la sainteté donc de Charbel va se répandre. Bientôt, une foule qui ne cessera de grossir dans les jours suivants viendra prier et de se recueillir devant son humble sépulture à laquelle les moines acceptent de donner accès. Et donc on y vient de partout. Des malades sont conduits qui demandent aux défunts des grâces d'intercession. Et au bout de 45 jours d'attente, d'hésitation, les autorités ecclésiastiques finissent par ordonner une première exhumation le 8 février 1899. Et là, on va trouver un corps absolument intact et souple, sans aucune raideur, sans la moindre décomposition. Il est alors relavé, revêtu de vêtements monastiques neufs et placé cette fois dans un cercueil de bois qu'on transfère à la chapelle du monastère où il est emmuré. Ultérieurement, d'autres exhumations permettront de constater le même phénomène, le corps est intact. Et donc le 4 août 1950, c'est le pape Pie XII qui autorise l'exposition solennelle du corps de Charbel dans un cercueil de verre. Et à partir de cette date, on commence à comptabiliser les miracles qui se produisent à proximité du corps. L'Église ne reconnaîtra que trois guérisons miraculeuses. Et Charbel est donc béatifié en 1965. Puis canonisé par Paul VI en 1977.
Que représente-t-il au Liban depuis cette canonisation ?
Alors, il est devenu officiellement le saint patron du Liban, en tout cas des chrétiens du Liban. Et donc, le monastère d'Anaya où il repose, qui était autrefois totalement isolé dans cette montagne sauvage que j'ai évoquée tout à l'heure, est aujourd'hui relié au reste du monde par de larges routes, ce qui permet aux pèlerins et aux malades d'y affluer. Et le petit ermitage où a vécu Saint-Charbel a été transformé en sanctuaire où les béquilles et les accessoires paramédicaux sont suspendus au mur, symbole des miracles, au milieu des ex-voto de remerciement. Par ailleurs, Saint-Charbel est honoré par une statue géante, 23 mètres, à Faraya, un village qui est en pleine montagne, donc à 44 km à peu près de Beyrouth.
Jean-François, vous avez dit que le trajet de Saint-Charbel l'avait mené du Liban à l'an. Pourquoi ?
Alors, parce que les chrétiens maronites ont été nombreux à quitter le Liban, notamment à l'occasion de la guerre civile, même s'ils avaient commencé déjà bien avant. Ils sont nombreux en Europe, et notamment en France, et sur le continent américain, au nord, Canada, États-Unis, mais aussi au sud, au Brésil, par exemple. C'est ainsi, par exemple, que des moines maronites à qui on a confié l'abbaye de Bois Seigneur Isaac dans le Brabant Wallon en Belgique y ont amené des reliques de Saint-Charbel. Il y a également plusieurs sanctuaires qui ont été élevés en l'honneur de Saint-Charbel au Canada, voire au Brésil. Et en France, il y a un sanctuaire en l'honneur de Saint-Charbel à Suresnes, en banlieue parisienne. Et chaque année, une messe est célébrée pour l'anniversaire de sa naissance dans l'église parisienne de Saint-Louis-d'Antin. Et donc, par ailleurs, il y a aussi des maronites, une communauté maronite dans la ville de Laon, qui regroupe une cinquantaine de personnes, soit à peu près 15 familles, qui sont installées là depuis une cinquantaine d'années. Et c'est la raison pour laquelle, le 15 septembre 2016, une statue de Saint-Charbel a reçu la bénédiction de Mgr Gemayel, l'évêque des Maronites de France, Et dans son homélie, en présence de Monseigneur de Dinechat, évêque de Soissons, Monseigneur Gemayel a évoqué l'histoire du patriarcat d'Antioche, c'est-à-dire évoqué l'ancienneté de cette église, et a rappelé qu'avant la terrible guerre du Liban, la guerre civile, le Liban avait été un modèle de vivre ensemble pour les multiples communautés qui le composaient. Et il a invité les fidèles occidentaux, autochtones, picards et orientaux, libanais, à unir leurs prières pour le retour de ce temps béni et pour que les chrétiens arabes restent en Orient. La passerelle, c'est son mot, entre les différentes communautés.
Jean-François Boulanger, après cette présentation de Saint-Cherbel que l'on a appris à connaître avec vous au fil des minutes, que peut-on en conclure ?
Eh bien, Monseigneur l'a rappelé, Saint-Cherbel fait partie de la mémoire d'une église libanaise dont l'histoire remonte au premier temps de la chrétienté et qui a été difficile. Et à ce titre, il est devenu par le biais de la diaspora chrétienne libanaise un lien entre les chrétiens à travers le monde et à travers la diversité historique de leur histoire respective.
Merci Jean-François Boulanger de nous avoir éclairé sur ce nouveau personnage qu'on a appris à connaître avec vous. Et on vous dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Le 18-19 sur RCF.
La suite du 18-19 en Champagne sur RCF France-Ardenne, RCF Cœur de Champagne. Un maire qui nous parle, il est l'édile de Trigny dans la Marne ce soir. Francis Blin est avec Jean-Pierre.
Francis Blin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors c'est l'occasion pour nous d'aller à la découverte de votre commune Trigny et de vous-même en tant que maire de la commune. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement Trigny, combien d'habitants, d'où viennent-ils, des personnes agriculteurs, je ne sais pas, c'est vous qui allez nous présenter, Francis Blin.
La commune de Trigny est située au nord-ouest de Reims, à environ 10-12 km de Reims. On a à peu près 600 habitants sur la commune. Ensuite, on est, je dirais, historiquement et géographiquement et, je dirais, géologiquement, on est sur le massif de Saint-Thierry. Je suis natif de la commune, donc je suis né à Trigny il y a déjà 71 ans et je connais très bien ma commune, évidemment. Dans ma profession, en fait, j'étais viticulteur, je suis en retraite depuis 6 ans, voilà.
Alors, effectivement, vous connaissez tout le monde, Francis
Blin.
Vous connaissez tout le monde. Vous avez dit combien d'habitants, Francis Blin ? Je n'ai pas tout à fait noté.
600.
Mais c'est déjà une grosse commune. Et justement, ces habitants, quelles sont leurs professions ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont des agriculteurs eux-mêmes ou...
L'activité économique principale, c'est la viticulture. On a, sur la commune de Trigny, 180 hectares de vignes. Donc, on a quelque chose d'assez actif en termes de, je dirais, de viticulture. Pas mal de gens qui vendent leur champagne, qu'on a 3 pressoirs particuliers et on a une coopérative qui prend justement les raisins de pas mal de viticulteurs de Trigny.
Alors tout ça, c'est très très bien. Et est-ce que finalement, on dit souvent que les maires aujourd'hui, ils ont beaucoup de travail et beaucoup de responsabilités. C'est un peu vrai quand même. Est-ce que vous avez aussi des projets qui sont en cours avec Trigny ou qui vont se dérouler dans les prochaines semaines ou les prochains mois ?
Oui, on a des projets en cours. En fait, c'est une ambition qu'on a toujours eue sur la commune de Trigny, c'est de faire évoluer notre patrimoine communal notamment. Donc on est depuis 3 ans en train de restaurer notre église. Une église qui commençait à perdre, à avoir pas mal de problèmes de justement de toiture, de fuite, etc. Donc on est en train, depuis 3 ans, on est en route. On a encore 3 opérations sur 3 ans encore. Et puis, normalement, on aura refait toute l'église en complet, c'est-à-dire toiture, charpente, les murs extérieurs, tout ça, ça va être refait.
Ça, c'est assez exceptionnel. C'est très, très bien. Et alors, on imagine la commune s'anime au moment des vendanges. C'est une vie tout à fait spéciale, hein, la vie des viticulteurs. Vous aviez quelques vignes. Vous avez des vignes, vous-même, Francis Blin.
Ah oui. Donc, je suis en retraite, mais j'ai repassé les vignes à mon épouse, mais je suis toujours plus ou moins dans les vignes.
On est viticulteur, on y reste tout le temps, hein, toute sa vie, on va pas abandonner ses terres. Et en tant que maire, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui le Grand Reims, mais le maire, il est toujours quand même un personnage dans la commune. On reconnaît le maire. C'est l'élu le plus proche. Les Françaises, dans les sondages, et les Français, quand on les interroge, dire quel est l'homme politique, quel est l'élu que vous appréciez le plus, tous ils disent c'est le maire. Parce qu'on le voit, on lui pose des questions, il répond, etc.
Voilà. exactement. Le fait d'être natif du village fait que, bon, j'ai quand même une certaine renommée sur le village, enfin, sans prétention, je dirais, par rapport à ça. Et donc, en plus d'être maire, peut-être que vous le savez, je suis également vice-président du Grand Reims en charge de l'eau et assainissement.
Ah, vous êtes donc vice-président du Grand Reims? Ah, oui. Absolument. Donc c'est ça, c'est une charge aussi importante, parce que je sais, par exemple, avec François Mourat qui nous en parle avec la voirie, il y a un nombre de réunions assez important, assez conséquent.
Tout à fait. On est très, 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 très investi justement dans nos responsabilités réciproques, ça va, que ce soit en tant que maire ou en tant que vice-président. Mais en fait, je vous dis, j'assume ça avec beaucoup de, je dirais, de volontarisme. Je me force pas, je me réveille le matin, je suis content au moins d'exercer ces responsabilités.
Alors finalement, il y a toutes ces activités, mais il y a aussi certainement pour vous l'occasion de vous organiser, parce que souvent on dit vie familiale, vie professionnelle. Bon, si vous êtes en retraite, bon, disons que ça facilite un tout petit peu les choses. Mais enfin, si vous aidez à la vigne, vous êtes relativement pris quand même, effectivement, oui. Francis Blin.
Oui, alors c'est vrai, donc ça fait quand même déjà, c'est mon troisième mandat de maire. Je suis élu depuis 1989, donc ça fait déjà, c'est mon sixième mandat d'élu, donc je connais justement les problématiques particulières entre le professionnel et la vie d'élu. Au moment où j'exerce encore ma profession de viticulteur, c'est vrai que j'ai dû sacrifier un peu de temps professionnel pour ma vie d'élu. En fait, pour la vie d'élu, j'ai même dû employer une personne pour pouvoir m'aider dans mes fonctions de la vie professionnelle. On l'assume en tant que maire. Moi, je pense que ça fait partie, ça fait partie de notre ADN. C'est le terme que je peux utiliser. Mais je suis toujours investi pour essayer de rendre le maximum service à mes proches, aux gens que je côtoyais dans la commune. Et maintenant, ça s'est élargi au niveau du Grand Reims.
Comment s'appellent les habitants de Trigny, Francis Blin?
Trinitiens et Triniciennes, voilà.
Ah, Triniciens et Triniciennes. Alors, quand vous rencontrez les Triniciennes et les Triniciens, et quand vous les rencontrez dans la rue, j'imagine qu'ils vous abordent tout le temps pour vous demander quelques services, c'est normal.
Oui, bon, c'est monsieur le maire, ou alors on m'appelle, bon, tous ceux qui me connaissent bien, c'est Francis. Bon, c'est vrai qu'il y a souvent des requêtes, mais on essaie de trouver. Alors, souvent, les requêtes, ça correspond, parfois, c'est plutôt de l'urbanisme. Bon, hein, c'est une personne qui a un projet d'extension à l'habitant, de construction d'une habitation, etc. Ils viennent nous consulter pour avoir des conseils, tout en sachant qu'on a déjà des documents d'urbanisme qui sont déjà très élaborés. On a un PLU sur la commune de Trigny qui permet déjà de déterminer qu'est-ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire. Mais il y a toujours un contact, hein, et les gens essayent de voir un petit peu ce qu'on peut leur proposer en termes de conseils.
On pose toujours la même question, d'ailleurs, aux maires qui sont interrogés sur RCF. Dans cette émission, votre maire nous parle. Finalement, au final, est-ce que vous êtes un maire heureux?
Oui, sincèrement, oui, je ne me plains pas justement de cette responsabilité. En fait, oui, je suis un maire heureux parce que j'aime bien ce que je fais. Et en fait, je suis très passionné par mon engagement et je le fais vivre, mon engagement. J'essaie de partager notamment avec mes conseillers municipaux. On a également une secrétaire de mairie avec laquelle je partage justement cette passion pour l'intérêt général.
Eh bien, moi, je trouve que c'est formidable. Merci, Francis Blin, d'avoir été avec nous, maire de Trigny. Faites-nous une promesse, c'est que de temps en temps, évidemment, s'il se passe quelque chose à Trigny, eh bien, vous nous appelez sur RCF, même en dehors de cette émission. On relayera vos informations, s'il y a de l'animation dans le village. Et puis, on vous envie un peu, parce qu'on vous imagine au milieu des vignes, là, mais c'est formidable. Quelle que soit la saison, il y a toujours quelque chose à faire, de toute façon.
Tout à fait.
Merci en tout cas Francis Blin d'avoir été avec nous et à très très bientôt sur RCF. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
Merci à tous les deux. Le tic-tac de la pendule nous indique qu'il est bientôt 18h30, l'heure du journal régional. Les titres de ce mardi 16 avril, la Chambre d'agriculture et le comité Élevage Marne ont organisé une nouvelle journée à destination des jeunes pour leur faire découvrir une soixantaine de métiers autour de l'élevage découverte. Les élèves du BTS Communication du groupe Saint-Michel de Reims ont participé aux journées Agences ouvertes à Paris. Retour sur cette expérience.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Souvent méconnu, parfois décrié, l'élevage est un secteur en pleine évolution, pourvoyeur d'emplois, mais qui doit faire face régulièrement aux idées reçues. Ainsi, et pour la seconde édition, la Chambre d'agriculture et le comité élevage... Et le comité Élevage Marne ont organisé le 11 avril au lycée agricole de Sommevel une journée à destination des jeunes pour leur faire découvrir une soixantaine de métiers de l'élevage, une opération intitulée « Ose l'élevage » que nous présente le président du comité Élevage Marne, Laurent Champenois.
C'est d'ouvrir, présenter nos métiers et nos entreprises aux jeunes qui sont finalement en réflexion sur leur orientation professionnelle. Alors on a tous les cas de figure, hein. On a des jeunes de 4e, 3e, c'est de peut-être de leur donner une lumière autour de l'élevage. Parfois de voir des animaux, ça peut donner un déclic et de se dire pourquoi pas, je fais un stage peut-être après dans une exploitation et puis peut-être que dans la suite s'engager dans une filière et dans une formation autour de l'élevage. Puis après pour les autres, c'est peut-être un déclic qu'ils n'ont encore pas et de procurer ce déclic-là parce que parfois ils ont déjà un petit parcours un peu plus professionnel ou autre. Et donc de se dire, on se lance dans l'aventure de l'élevage et dans les métiers de l'élevage. Et aujourd'hui, nos 25 entreprises présentes sont des entreprises avec des personnes passionnées. Et ils vont justement essayer de montrer la passion qu'ils ont de leur métier aux jeunes. Notre métier est tellement passionnant qu'il faut qu'on le partage. Et c'est ce qui peut donner envie aux jeunes de rentrer dans un métier passionnant.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten. Plus de 30 classes, 600 jeunes de différents niveaux, de la 5e à la 2e année de BTS, ont participé à cette journée pour découvrir l'élevage et ses métiers. 25 entreprises étaient présentes. Ardennes Métropole et le centre hospitalier ont signé hier un accord de vente à hauteur de 270 000 euros qui va permettre à la collectivité de mener des travaux dans l'ancien EHPAD de la place de l'agriculture. Objectif, en faire une maison dédiée aux internes de médecine. 55 logements de 21 à 35 mètres carrés sortiront de terre. Dossier complet à retrouver en page 7 chez nos confrères de l'Ardennais ce jour. Par ailleurs, Ardennes Métropole accompagne la ville de Sedan pour sortir une enveloppe de plus de 15 millions d'euros pour lutter contre les inondations. Les premiers travaux devraient débuter en 2026. Au moins une fois par an, les agences de communication ouvrent leurs portes le temps d'une petite semaine dédiée. C'est ce qu'on appelle les journées agences ouvertes. La 14e édition s'est tenue il y a quelques jours avec pour but de valoriser et promouvoir les métiers de la communication, de la création et de la publicité auprès d'un large public. Les étudiants en BTS communication du groupe Saint-Michel de Reims ont passé 2 jours à Paris. Nicolas, Kylian, Shana et Servan reviennent sur les visites effectuées.
L'objectif, c'était réellement de découvrir des agences de communication, de découvrir l'envers du décor de toutes leurs missions, de savoir concrètement comment ça s'organisait et en fonction de ça, de savoir si nous, ça allait réellement nous plaire de, par exemple, nous projeter dans des agences de communication pour nos futurs métiers.
Ça nous sert à pouvoir voir les différents métiers qu'il y a dans une agence de com, voir comment est réalisé un projet. On peut vraiment discuter avec différents professionnels pour voir les différents métiers qu'ils ont et puis voir les différentes problématiques qu'ils peuvent rencontrer lors des différentes missions qui leur sont attribuées.
On a eu l'occasion d'aller à l'agence MediaMonks, ce qui nous a permis de voir tout un environnement différent et comment concrètement se passe une journée typique dans une agence de communication. Ça nous a permis de voir vraiment les différents aspects, les différents pôles effectivement qui existent et comment ils travaillent tous ensemble afin d'effectuer la meilleure communication possible.
Ça a été vraiment très, très enrichissant de découvrir différentes agences et comment concrètement tout ça s'effectue, tout ça se crée.
Ils en ont aussi profité pour découvrir l'envers du décor du monde de la télé en participant à l'enregistrement d'une émission Quotidien diffusée sur TMC du lundi au vendredi. Servan, Nicolas, Kylian et Shana se remémorent les coulisses.
On découvre déjà tout est confisqué, pas de technologie, pas de téléphone, on nous enlève tout et on est directement sur le plateau. qui paraît beaucoup plus petit. Et oui, par exemple, l'émission est découpée, c'est l'envers du décor qu'on n'imaginait pas forcément.
On a directement, dès qu'on arrive, à un chauffeur de salle qui nous permet d'avoir des indications pour justement rire, pour réagir en fonction des invités et pour justement applaudir en fonction de leur passage justement.
L'enregistrement n'est pas beaucoup plus long parce que, chose que je ne savais pas, c'est pratiquement du direct, c'est du différé de 20 minutes. Donc les sujets que nous avons le jour même, ils se passent le jour même à la télé. Et donc c'est assez impressionnant quand même.
Moi, ce qui m'a le plus perturbé, entre guillemets, c'était vraiment de pas regarder la caméra, de faire comme si je la voyais pas parce que bon, c'est un peu trop voyant. Mais globalement, ça a été une très bonne expérience de pouvoir vivre ça.
Des expériences enrichissantes qui ont permis à ces étudiants de mieux appréhender leur poursuite d'études et leur plan de carrière. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
Et tout de suite, nous allons parler de Gérard Goris, qui est président d'une association. Gérard Goris, que vous connaissez comme correspondant de RCF Cœur de Champagne, que vous connaissez avec la casquette de maire de Fère Champenoise. Depuis 2 ans, il a repris la présidence de l'association du Sud-Ouest Marnais des parents et amis d'enfants inadaptés. Au micro d'un de nos autres correspondants, Christian Lanciot, il nous présente l'organisation et les missions de cette association locale.
Bonjour Gérard. Oui, bonjour Christian et chers auditeurs de RCF. Oui, donc la SOMPAEI, c'est donc l'association du Sud-Ouest Marnais de parents et d'enfants inadaptés. C'est une association qui regroupe plusieurs services.
On va commencer le premier service, c'est l'Institut médico-éducatif.
Oui, alors là, ça représente à peu près 16 enfants de 6 à 18 ans. Ils sont donc orientés pour leur vie et leur projet par rapport à leur handicap. Et bien entendu, sont encadrés par du personnel qui peut aller jusqu'à des psychologues qui les suivent de jour en jour pour faire une vie sociale dans l'inclusion de la vie normale.
Alors on peut dire que ce sont des enfants donc qui ne sont pas scolarisés de manière normale dans l'établissement scolaire et donc on tient compte de leurs difficultés donc pour leur confier des travaux quand même.
Oui, alors ils suivent un peu comme l'éducation nationale, mais quand ils arrivent à des âges beaucoup plus adaptés pour eux, ils ont des petits travaux et donc on appelle ça l'IM Pro, c'est-à-dire qu'ils partent un peu dans la vie professionnelle et par rapport à leur projet de vie, ils s'orientent, ils vont être orientés après dans ce qu'on appelle l'ESAT, qui est un établissement service d'aide par le travail. Et donc ils vont aller soit à Cézanne, mais ils peuvent aller aussi dans d'autres ateliers dans la Marne ou dans d'autres départements, tout dépendra de leur choix de vie sociale. Ils apprennent à faire différents travaux et ils regardent ce qui se passe un peu autour d'eux. Par exemple, pour la ville de Cézanne, ils préparent toutes les décorations de Noël avec tout ce qui est décoré dans les arbres et ils y installent aussi les sapins et ils décorent la ville.
Donc on leur confie des travaux, comme vous dire, adaptés à leurs moyens. Alors vous avez évoqué déjà l'établissement de services d'aide par le travail. En fait, la SOMPAEI, c'est un acronyme un peu compliqué. On peut dire que ça a remplacé le CAT, le Centre d'aide par le travail.
Oui, il y a quelques années, ça s'appelait donc le CAT. La SOMPAEI, c'est bien une association qui gère l'ensemble des services de la SOMPAEI, qui est donc l'IME, l'ESAT, et aussi le SAVS. C'est un service qui est maintenant depuis une dizaine d'années qui a venu compléter le service de l'ensemble de la SOMPAEI. La SOMPAEI, c'est un conseil d'administration, bien entendu avec un président et des vice-présidents, ensuite trésorier et secrétaire, et des membres du conseil d'administration qui regardent et qui font les projets de l'association. Projet associatif qui doit rentrer dans des cadres gérés par l'ARS, qui est notre tutrice pour l'association, et le département qui, eux, servent au niveau du SAVS.
Alors, le SAVS, donc, on l'a dit, c'est le service d'accompagnement à la vie sociale, donc accompagnement suivi, comme tu l'as dit, avec des psychologues, éventuellement. Et on revient à l'ESAT, donc, puisque la première qu'on a évoquée, c'est l'Institut médico-éducatif, le SAVS. Combien de bénéficiaires ?
Alors, l'ESAT, c'est donc 65 bénéficiaires, pas toujours à temps complet, par rapport à leur handicap, il y a des personnes même vieillissantes, donc qui sont pris des fois à mi-temps ou à quart-temps, et on travaille avec eux. Ils sont encadrés par des éducateurs. L'ensemble des éducateurs pour la somme PAUI est d'environ d'une trentaine. Donc là, ils sont répartis. À l'ESAT se retrouvent trois grands services. Le service de recyclage, alors carton, papier, mais aussi tout ce qui est appareil informatique en massification pour partir dans un centre de tri à Troyes. Les cartons sont donc, eux, pressés et partent en balle vers une cartonnerie. Et ensuite, les papiers sont triés par catégorie de papier. Il y a aussi des destructions d'archives de notaires, de banques, de particuliers. Pour tout ce service-là, c'est encadré par plusieurs éducateurs.
Gérard, merci, bravo. Et puis, on viendra te revoir à l'occasion pour voir comment tout ça évolue. Mais en tout cas, c'est vraiment très bien.
Gérard Goris et Christian Lanciot depuis Fère-Champenoise dans le sud-ouest marnais.
Le 18-19 sur RCF.
Rendez-vous désormais avec Patrick Faustier, vice-président d'Ardennes Métropole. L'entretien, c'est avec Jean-Pierre.
Patrick Faustier, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
On a vu dans l'actualité qu'il y avait des aides que vous apportiez avec Ardennes Métropole aux producteurs agricoles. Vous les avez mis en place il y a quelque temps ?
Oui, très récemment, au dernier conseil communautaire. Donc nous avons voté un dispositif d'aide. On avait déjà depuis plusieurs années un dispositif similaire qui existait pour les commerçants et artisans. Et puis, comme vous venez de l'indiquer, le sujet de l'agriculture est intervenu dans l'actualité très récemment. On a vu les difficultés qui étaient celles du monde agricole, et nous souhaitons à Ardennes Métropole avoir la possibilité donc de soutenir les productions locales, et spécialement celles qui ensuite sont consommées en local, ce qu'on appelle le circuit court. Et donc on vient de mettre en place un dispositif qui nous permet à la fois de subventionner et puis également de faire des prêts à taux zéro pour aider les producteurs qui voudraient construire chez eux des ateliers de production, de transformation, pour que un maximum de valeur ajoutée reste sur l'exploitation, et puis toutes celles et tous ceux qui voudront créer des magasins de vente, là aussi pour permettre la vente en circuit court des produits agricoles. Nous souhaitons vivement à Ardennes Métropole à la fois maintenir notre tissu agricole, parce que nous sommes convaincus que c'est une nécessité dans la période actuelle. On parle de souveraineté alimentaire, c'est un point important. Et puis également permettre à nos habitants de consommer des choses qui sont produites à proximité de leur domicile, ce qui est bien entendu tout à fait vertueux sur le plan de l'environnement.
Et puis surtout, Patrick Faustier, c'est parce que quand on voit l'inquiétude et la morosité qui traversent le monde agricole, un petit rayon de soleil pour les agriculteurs, c'est une bonne chose, mais aussi pour les consommateurs qui cherchent des produits frais, des produits courts, des produits locaux.
Absolument, on a d'excellents produits, tous les laitages, les viandes, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits en saison qui sont produits dans les Ardennes et qui peuvent être consommés extrêmement facilement et surtout encore sans avoir besoin d'être transportés sur des centaines ou sur des milliers de kilomètres avec toute l'empreinte carbone que ça suppose et qui évidemment dans la période actuelle est inacceptable. Nos agriculteurs, nos producteurs d'une certaine façon, on pense aussi aux maraîchers, nos producteurs arboricoles ont besoin de soutien, et bien c'est ce que nous avons souhaité faire à Ardennes Métropole en mettant en place ce dispositif d'aide.
Alors, est-ce que vous avez pu noter dans le cœur commercial de Charleville-Mézières de nouveaux commerces, peut-être même des franchises qui sont venues rejoindre Charleville-Mézières et Ardennes Métropole ?
Oui, bien sûr. Dans les dernières semaines, nous avons inauguré, accompagné l'implantation de deux franchises. Alors, le commerce de cœur de ville, on le sait bien, souffre, notamment toute la filière habits, vêtements, souffre beaucoup. C'est des sujets qui sont un peu nationaux, sur lesquels on ne peut pas grand-chose. En revanche, Vous savez qu'on a une politique extrêmement dynamique pour accueillir des nouveaux commerces sur le territoire et que nous sommes particulièrement intéressés lorsque ce sont des franchises, parce que les franchiseurs n'acceptent pas d'implantation, je vais dire, au petit bonheur la chance. Ils étudient très précisément la zone commerciale avant d'autoriser un franchisé à venir s'y implanter. Et donc nous avons enregistré très récemment à la fois l'ouverture d'un Jeff de Bruges qui vient compléter l'offre de nos artisans chocolatiers, donc c'est une excellente chose, nous n'avions plus de commerce de cette nature et donc on en est très content. Et puis également une franchise qu'on retrouve d'ailleurs sur la région de Reims qui s'appelle Au Fût et à Mesure, donc qui est une franchise de bière avec la possibilité donc de se distribuer avec des outils électroniques, donc c'est un peu fun, ça correspond bien à une jeune clientèle. Il s'est implanté, ce magasin, en cœur de zone, à l'entrée de la zone piétonne de Charleville-Mézières. Pour nous, c'est une très bonne chose. Et nous allons enregistrer d'ici quelques semaines, à l'été, je crois, l'ouverture d'un magasin normal. Normal, c'est une franchise de bazar, de produits d'hygiène, de produits de beauté, de produits alimentaires, qui vient du nord de l'Europe et qui vient s'implanter un peu partout en France, et notamment à Charleville-Mézières. Tout ça, c'est pour nous d'excellentes nouvelles. Ça montre que notre cœur commercial reste dynamique et vu comme ça par les franchiseurs.
Alors évidemment, Patrick Faustier, on s'interroge aussi beaucoup surtout sur l'état de l'emploi, la situation de l'emploi dans les Ardennes et en particulier à Armennes Métropole. Est-ce que dans ce domaine, il y a eu des démarches, des vitrines qui ont été lancées, des concours, des rencontres? Est-ce que vous avez des renseignements à nous donner sur ce sujet?
Alors oui, j'en ai à vous donner. On a très récemment, avec la mission locale que je préside, organisé un forum job emploi. Il y en a un chaque année. Celui-ci s'est déroulé au marché couvert de Charleville-Mézières. On utilise cet emplacement depuis 2 ans. Il a été très fréquenté. Nous avions près de 700 offres d'emploi, dont plus de 333, je crois, de mémoire, offres en CDI, en contrat à durée indéterminée, donc c'est important. Beaucoup d'emplois en CDD également de plus de 6 mois, donc des contrats qui ne sont pas des petits contrats, hein, et qui permettent donc à des jeunes de trouver un emploi et de démarrer dans la vie active. Donc aujourd'hui, c'est une confirmation, parce que c'est ce que j'entends aussi de la plupart des chefs d'entreprise. Nous avons besoin d'employés, nous recherchons des salariés et nous avons des difficultés à trouver ces salariés. Donc sachons-le, disons-le, proclamons-le, il y a à Ardennes Métropole, à Charleville-Mézières et dans les Ardennes de façon générale, des postes à prendre et celles et ceux qui souhaitent travailler peuvent trouver du travail de façon relativement facile en ce moment.
Ça veut dire qu'au fond, d'ailleurs c'est votre tempérament Patrick Faustier, même au-delà d'une situation d'inquiétude sur le plan économique, on voit qu'il y a un certain quand même voyant qui se met au rouge, en particulier dans les déficits à l'heure actuelle sur le plan national. Bon, l'espoir est toujours de mise dans les Ardennes.
Oui, tout à fait. On a connu, bon, comme toute la France, hein, une baisse du taux de chômage, donc ça c'est une excellente chose. Encore une fois, on a beaucoup d'employeurs qui, entre guillemets, se désespère, enfin en tout cas cherche la bonne solution pour attirer des candidats. Donc le marché de l'emploi est plutôt dynamique. Il y a effectivement, comme vous le soulignez, un certain nombre d'inquiétudes qui peuvent se faire jour, mais bon, pas de sinistrose, quoi, hein. On est là pour se battre, on est là pour se développer. Je crois que chacun reconnaît aujourd'hui que les Ardennes sont dans une phase que j'appelle un peu une phase de retournement. Donc profitons-en, allons de l'avant et puis je l'espère, un certain nombre de difficultés vont pouvoir maintenant être derrière nous.
Comme à chaque fois, on peut se donner rendez-vous à peu près dans 3 semaines, un mois, Patrick Faustier.
Avec grand plaisir et merci de votre invitation et de me donner l'occasion, effectivement, de faire connaître les belles choses qui fonctionnent bien dans les Ardennes. On nie pas les difficultés, mais on essaye de les surmonter.
Merci Patrick Faustier. Rappelons que vous êtes vice-président d'Ardennes Métropole chargé des questions économiques. Au revoir.
Au revoir.
Merci à tous les deux, on se retrouve dans à peu près un mois pour évoquer de nouvelles actualités économiques.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Et pour terminer cette émission sur RCF France-Ardennes, RCF Cœur de Champagne, on prend la direction du diocèse de Chalon puisqu'un projet scout est en cours de création, Christopher.
afin que le scoutisme trouve toute sa place dans le sud-ouest marnais, à savoir Sézanne, Esternay, Anglure, Fère-Champenoise, Montmirail, Montmort et tous les villages rattachés à ces communes, l'espace missionnaire de l'Abri souhaite créer un groupe scout unitaire de France, dit SUF, pour les jeunes garçons et filles de 8 à 15 ans. Pour nous en parler, nous avons en ligne aujourd'hui sur RCF Charles de Lestapie. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes intendant de la paroisse Sainte-Léonie-Avia, l'une des paroisses de l'espace missionnaire de l'Abri. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCF pour nous présenter justement ce beau projet, ce groupe scout unitaire de France du côté de l'Abri champenoise. Avant de revenir sur ce projet, peut-être nous dire d'abord comment est venue l'idée de lancer un groupe scout dans le Sézanais.
Eh bien, l'idée a mûri depuis quelques années. Mon fils âgé de 14 ans est au groupe scout unitaire de France de Châlons-en-Champagne depuis de nombreuses années.
Oui.
Et des amis, des parents allant à la messe voyaient Gabin en uniforme et nous ont posé beaucoup de questions. Et on s'est rendu compte avec d'autres amis qui avaient eux-mêmes leurs enfants, filles et garçons au SUF de Châlons-en-Champagne. On s'est rendu compte qu'il y avait une demande. Une certaine demande au niveau du Sézanais et ses alentours. Et on s'est dit, pourquoi pas essayer de faire mûrir ce mouvement sur le Sézanais par l'intermédiaire du groupe de Châlons en Champagne.
Alors, on peut le dire, Charles de Lestapie, que c'est à la fois une volonté de plusieurs personnes dans le Sézanais. Vous êtes quand même assez nombreux à vouloir justement un groupe scout du côté du Sézanais.
Oui, tout à fait. Donc du côté du Sézanais, effectivement, il y a une certaine demande. Il y a une école privée dans le centre-ville de Sézanne. Nous avons également d'autres établissements privés sur l'espace missionnaire. Et au-delà de ces établissements privés, nous avons d'autres enfants qui ne sont pas du tout rattachés à ces établissements-là, qui sont demandeurs. Et cette année, faisant partie donc de l'équipe de conduite de la paroisse de Sézanne. C'est ensemble, avec l'équipe de conduite, que nous avons travaillé. Ça a été un petit peu un des piliers de cette année, d'essayer d'implanter les scouts unitaires de France sur le Sézanais. Donc, on a travaillé ensemble. Et nous avons pris contact avec les chefs de groupe, Philippe et Della Lacombe, qui sont les chefs de groupe des scouts unitaires de France de Châlons en Champagne.
D'accord.
Et grâce à eux, c'est eux qui sont venus nous voir pour que les scouts, 6 scouts il y a sur Sézanne, soient créés, mais aussi et surtout rattachés à leur groupe à Châlons en Champagne.
Alors, votre fils, vous le disiez quelques instants, fait partie du groupe scout du côté de Châlons en Champagne ?
Oui, c'est ça. Il fait exactement partie d'une des patrouilles de la troupe scout de Châlons en Champagne. Et avant, il était louveteau, puis scout. Voilà.
Et donc, vous confirmez la demande de l'ensemble de l'espace missionnaire de la Brique. En effet, Sézanne, Châlons, il y a quand même une distance et ce serait bien d'avoir un groupe local.
Exactement. En fait, aujourd'hui, on a tous des plannings très très chargés,
ouais, oui.
Et on est tous à droite et à gauche à courir. Et effectivement, le scoutisme n'était pas du tout un frein dans le plan éducatif des parents, mais ce qui était un frein, c'est cette fameuse distance entre le Sézanais et les Châlons en Champagne, et ce qui fait que beaucoup de parents ont dit non à cette inscription du fait des kilomètres. Et donc, aujourd'hui, si les scouts, si on arrive à créer quelque chose au niveau de Sézanne, je répète toujours en étant sous la coupole du groupe de Châlons-en-Champagne,
oui.
Si on arrive à créer quelque chose, on aura des inscriptions parce que justement, la plupart des activités se passeront dans le Sézanais et dans l'Abri.
Alors, ce projet de création de groupe scout du côté du Sézanais, vous, personnellement, Charles de Lestapie, quel est votre rôle dans ce projet avec les SUF de Châlons ?
Alors, c'est un rôle tout simple, c'est-à-dire que mon rôle a été de mettre en contact avec l'aide de l'équipe de conduite, de mettre en contact les familles du Sézanais avec les chefs scouts de Châlons-en-Champagne, tout simplement. Donc, en les mettant en contact, on a mis en place une réunion qui a eu lieu samedi dernier.
Alors justement, cette réunion d'information par les chefs SUF de Châlons-en-Champagne a eu lieu au presbytère de Cézanne le 6 avril dernier. Quel retour faites-vous justement de cette réunion d'information ?
Bah, écoutez, un retour extrêmement positif. Nous avons eu une très belle surprise puisque la salle principale du nouveau presbytère de Cézanne, qui est une très grande salle, on n'avait pas assez de chaises pour asseoir tout le monde.
En effet, ah oui.
Donc c'était vraiment une très belle réunion. Beaucoup d'enfants, alors essentiellement des jeunes enfants entre 8 et 10 ans. Et donc, a priori, du retour que l'on a eu, c'est un retour extrêmement positif. Et les chefs de Châlons-en-Champagne sont repartis chez eux avec de nombreuses adresses pour des enfants susceptibles de s'inscrire dès la rentrée de septembre prochain.
En effet, donc c'est plutôt positif cette réunion d'information. Alors justement, quelle est la suite de ce projet, Charles de Lestapy ?
Écoutez, la suite, c'est qu'on espère de tout cœur qu'il y ait une création sur le secteur de Cézanne. Cette création, comme l'ont bien précisé les chefs de Châlons-en-Champagne, cette création n'aura lieu que si on a bien entendu un effectif d'enfants, mais aussi et surtout un effectif de chefs capables de s'occuper de nos enfants. Mais ça, c'est pas moi. Je n'étais que le lien entre les familles et les chefs scouts. Et c'est donc les chefs de groupe. Je répète, Philippe et Della Lacombe qui vont gérer cela à leur niveau. Voilà, moi je n'ai fait que l'intermédiaire et j'espère que cet intermédiaire permettra effectivement l'arrivée de jeunes scouts dans le Cézanne.
En tout cas, d'après vos propos depuis quelques minutes, Charles de Lestapy, on sent de l'optimisme dans ce projet.
Oh que oui, c'est tellement demandeur, on est tellement demandeur dans le secteur que je suis convaincu que ça va prendre et qu'on va très rapidement avoir des petits louveteaux au sein de notre église.
Eh bien, c'est tout.
Des louvettes, bien sûr, des Jeannettes, des louveteaux et des
bien
scouts.
Bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de rôles dans le rôle des scouts unitaires de France. En tout cas, merci infiniment, Charles de Lestapy, de nous avoir mis en lumière ce très beau projet du côté de l'espace missionnaire de la Brise, cette création d'un groupe scout unitaire de France, avec cette belle collaboration avec le groupe de Châlons-en-Champagne et cette réunion qui s'est tenue le 6 avril dernier au presbytère de Cézanne. On vous souhaite forcément le meilleur dans ce projet et vivement un nouveau groupe scout donc dans le Cézanne. Merci beaucoup Charles de Lestapy.
Merci à vous.
Un très beau projet du côté du sud-ouest marnais. Merci Charles de Lestapy d'avoir été avec Christopher Fausten pour cette présentation. L'interview est à retrouver d'ici quelques instants en podcast sur le site rcf.fr, tout comme ce magazine régional et tous les autres programmes que vous chérissez sur RCF France-Ardennes, RCF Cœur de Champagne dans la rubrique programme sur le site internet rcf.fr. Merci Kylian de nous avoir accompagnés ce mardi.
Merci Alexis de m'avoir accueilli.
Et puis on vous dit à très bientôt. Les prochains rendez-vous pour nos auditeurs, évidemment, c'est à 18h10 demain, mercredi, avec de nouvelles découvertes à faire sur notre territoire. Et puis les rendez-vous avec vos rédactions locales, c'est dès 7h ce mercredi. D'ici là, les programmes locaux de RCF continuent de vous accompagner. On vous rappelle une nouvelle fois cette triste nouvelle avec un rendez-vous. Jackie Husson, qui avait joué un rôle important dans la vie de la radio, nous a quittés il y a quelques jours. Ses obsèques seront célébrées demain, mercredi 17 avril à 14h30 en l'église de Saint-Brice-Courcelles. Nous renouvelons notre union de prière et nos amitiés à la famille, aux amis et aux proches de Jackie Husson qui a beaucoup compté pour la radio RCF France-Ardennes. Très bonne soirée en compagnie de nos programmes.